DW. Droits et libertés.
Donald Trump avait annoncé la couleur durant la campagne électorale en 2024. Il comptait réduire les dépenses publiques, empêcher certains étrangers de venir aux États-Unis en restreignant les visas et en renforçant le contrôle des frontières. Depuis sa prise de fonction, le président américain applique son programme et l'administration Trump multiplie les attaques contre plusieurs universités. Les mouvements de protestation pro-palestiniens organisés dans certains établissements d'enseignement supérieur américains pour critiquer la violence démesurée employée par l'État d'Israël dans la bande de Gaza en riposte à l'attentat du Hamas en octobre 2023. Ces protestations ont entraîné l'arrestation de nombreux étudiants et servent désormais d'argument au président Trump pour couper les vivres à certaines universités. Nous revenons cette semaine sur les conflits entre l'administration Trump et le milieu universitaire américain avec notre invité, le docteur Nyaka Lagoké de la Lincoln University en Pennsylvanie. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde. Donald Trump accuse certaines universités, dont les prestigieuses Columbia et Harvard, de laisser l'antisémitisme prospérer sur leur campus, d'être des institutions antisémites d'extrême gauche et même une menace pour la démocratie, surtout lorsque ces universités promeuvent la diversité. 5 sénateurs démocrates de confession juive ont adressé une lettre ouverte à Donald Trump qu'ils accusent de détournement du combat contre l'antisémitisme qui viserait, selon eux, à couper le financement d'universités et à les punir gratuitement. Parmi les signataires de cette lettre ouverte se trouve le chef de file de l'opposition au Sénat, Chuck Schumer. Harvard est particulièrement ciblée par le président. Cette université parmi les mieux classées au monde a attaqué en justice l'administration Trump contre un gel de plus de 2 milliards de dollars de subventions fédérales. Cette décision de la Maison-Blanche faisait suite au refus de l'institution de se plier à certaines exigences de Donald Trump qui menaçait Harvard de lui interdire d'accueillir des étudiants étrangers si elle refusait à son tour de livrer à l'administration fédérale des informations sur les étudiants qui ont manifesté et des informations sur leur parcours disciplinaire. Le président américain a déjà fait supprimer des visas et il menace d'expulsion certains étudiants étrangers. Il a donc également annoncé des coupes de plusieurs milliards de dollars dans les subsides alloués aux études et à la recherche, le renvoi de plusieurs chercheurs, l'arrêt de certains programmes de recherche, comme ceux consacrés à l'étude du changement climatique ou de traitement contre le cancer, par exemple. Plusieurs grandes universités, comme Yale ou Princeton, ont rejoint Harvard pour rejeter ce qu'elles appellent l'ingérence politique de Donald Trump. Kirsten Weld, qui est présidente d'une association de professeurs, l'AAUP, a déclaré à l'agence AFP, je cite, « Les enseignants sur le campus sont bien conscients que nous sommes face à un gouvernement de plus en plus autocratique et autoritaire qui tente de démanteler non seulement nos universités, mais le secteur de l'enseignement supérieur dans son ensemble. » Fin mars, plus de 1900 membres de sociétés savantes américaines ont lancé un appel à l'aide pour une science qu'ils estiment décimée par le président. C'est donc pour discuter de cette situation que Linnea Mundorf a joint le docteur Nyaka Lagoké. Il est maître de conférences en histoire et chef du département d'études panafricaines à la Lincoln University en Pennsylvanie.
D'abord, le premier impact, c'est d'abord sur le plan humain. Les gens ont peur. La plupart des avocats sont en train de dire aux étudiants qui sont venus aux États-Unis avec le F1 visa, c'est le visa qu'on donne aux étudiants généralement, qu'il ne faut pas qu'ils sortent du pays. C'est-à-dire que généralement, quand un étudiant peut aller faire un voyage d'études à l'étranger, la plupart des universités sont en train de conseiller aux gens de ne pas sortir du pays. Donc ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, c'est que les universités sont en train de couper. Si une université comme Harvard ne reçoit pas son budget qui devait certainement venir du gouvernement américain et qui se chiffrerait en quelques milliards de dollars. Et si cet argent n'est pas là, bien sûr que ça va affecter les recherches. Et donc, des universités sont en train de faire des coupes budgétaires où les universités sont en train de renoncer des bourses ou bien des soutiens financiers à des étudiants selon les programmes. Et cela arrive. Moi, je suis en Pennsylvanie, à Lincoln University. C'est la première université des Noirs aux États-Unis. J'ai une de mes étudiantes qui devait aller dans une autre université ici en Pennsylvanie. Elle avait été acceptée dans deux écoles. Il y a une école qui lui a écrit pour dire non, par rapport au contexte, la bourse qu'on devait te donner là, donc on ne te donne plus la bourse. Donc ça, effectivement, ça affecte les gens.
Et quelles mesures est-ce que les universités doivent-elles prendre maintenant pour se protéger?
Moi, je viens d'une tradition de résistance. Donc pour moi, je pense que c'est vrai, c'est normal. Il faut prendre la réalité politique américaine sous Trump au sérieux. Il y en a qui pensaient que tout ce qu'il faisait, il s'amusait, que ce n'était pas sérieux. Aujourd'hui, tout le monde sait que Trump est sérieux. Alors pour moi, il faut que les gens s'organisent. Les gens doivent résister. Ils le font déjà. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de traduire le gouvernement américain en justice. Et selon les échos, les tribunaux sont en train de donner raison à la plupart de ces plaignants, mais en même temps, le gouvernement a une certaine puissance. Et donc, ça fait que même si les tribunaux donnent l'ordre au président américain ou bien au gouvernement américain de faire des choses, les gens peuvent y mettre de la mauvaise foi, ils peuvent traîner les pieds, et c'est ce qui se passe. Et les universités doivent travailler de façon coordonnée, parce que ce n'est pas un combat individuel. Il s'agit des droits humains, il s'agit des franchises universitaires, il s'agit de l'image des États-Unis. Il s'agit aussi de l'impératif d'affirmer, de contribuer à créer des conditions pour un mieux vivre et un mieux être individuel et collectif.
Est-ce que vous pensez que cela peut avoir aussi des effets positifs? Donc, je veux dire que si les universités deviennent fondamentalement indépendantes du financement du gouvernement, est-ce que ça peut être aussi positif pour les universités?
Bien sûr que... C'est un peu ce qui se passait quand il y a eu en anglais on dit le Civil Rights Act de 1964, au temps de la ségrégation, quand le gouvernement a pris cette loi pour demander aux gens d'arrêter la discrimination dans les écoles, sur le lieu du travail, dans les communautés, dans les espaces, et qu'il fallait encourager donc le droit de vote. Mais tout cela, ça n'a pas été effectif comme il se devait parce que le gouvernement américain ne s'était pas impliqué. Surtout que ceux qui voulaient continuer la ségrégation trouvaient les conditions et les moyens de contourner cette loi ou encore de faire une levée de fonds pour pouvoir fonctionner. Donc, je suis allé en 64, donc je reviens maintenant pour dire qu'effectivement, c'est ce que les gens doivent faire. Encore que c'est ceux qui vont être les premiers à soutenir l'indépendance et l'autonomie des espaces et universitaires ou encore de l'école pourraient subir des représailles. Mais je pense que, effectivement, c'est une très bonne question. Les gens doivent penser à une certaine forme d'autonomie des écoles pour ne pas trop dépendre du gouvernement américain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis dans une université, de Lincoln University, où Kwame Nkrumah était là, l'école avec Azikwe. Mais mon école, par exemple, n'est pas en train de développer une certaine dynamique pour faire une levée de fonds au-delà des États-Unis. Donc les gens dépendent de la Pennsylvanie et dépendent du gouvernement américain. Et donc c'est une école de noirs. Et avec tout ce qui se passe, si les gens décident de ne pas donner le financement, donc naturellement l'école va avoir des difficultés. Alors donc, c'est ce que je pense. Donc, les gens doivent trouver, et à l'intérieur des États-Unis et à l'extérieur, les moyens de trouver des moyens et des sources de financement pour ne pas trop dépendre du gouvernement américain. Parce que si Trump est encore là, et que c'est le vice-président qui est là, continue avec la politique de Trump, donc c'est sûr qu'on peut être encore dans cette affaire pour au moins 4 ans ou bien au-delà de 4 ans.
Et le possible gel de financement pourrait-il également entraîner une diminution de la venue des étudiants internationaux aux États-Unis? Vous avez déjà évoqué ces aspects un petit peu.
Ah oui, mais cela va de soi. Il y a des écoles aux États-Unis, même si l'école est très chère aux États-Unis, ce n'est pas comme en Allemagne, ce n'est pas comme en France, l'école c'est assez cher. Mais malgré tout, il y a des créneaux que les universités utilisent pour faire venir des étudiants internationaux. Donc, il y a des gens qui ont une bourse complète à partir de leur pays d'origine. Et, ou bien quand ils arrivent ici, ils arrivent quand même à trouver un certain soutien à l'intérieur des universités. Alors, donc, avec ce qui se passe, les universités américaines vont essayer de faire en sorte de garantir le soutien financier aux Américains d'abord, ce qui est normal, et en plus à ceux qui sont déjà sur le territoire américain. Maintenant, penser à ceux qui vont venir de l'extérieur, ça va être un peu mis en limbo. Et donc, je pense que même les étudiants qui voudraient venir ici vont certainement changer d'avis. J'ai lu que des gens veulent maintenant aller au Canada. Donc, ça, c'est aussi une tendance. Et les gens vont certainement aller dans d'autres pays où ils espèrent faire aller à l'école normalement sans les représailles ou bien l'épée de Damoclès d'une déportation de masse ou bien d'une révocation de leur statut légal d'étudiant.
Et vous avez parlé maintenant du Canada, mais est-ce que vous pensez que ça peut être aussi, que les gens pensent aussi peut-être de venir en Europe?
Ah oui, bien sûr que Trump est venu exposer un peu. Il fonctionne comme si l'Amérique était une planète à part, ou encore que l'Amérique est tellement exceptionnelle qu'il n'y a pas de choses qui se passent ailleurs. Et ce n'est pas vrai. Donc il y a des choses bonnes en Allemagne, il y a des choses qui sont bonnes en Angleterre, des choses qui sont bonnes en France et puis des choses qui sont bonnes dans d'autres pays. Et donc, c'est sûr que cette tendance-là va être soutenue avec ce que Trump est en train de faire.
Merci à Linnea Mundorf pour cette interview avec le docteur Nyaka Lagoke, maître de conférences en histoire et chef du département d'études panafricaines à la Lincoln University en Pennsylvanie. Vous pouvez réécouter cet épisode de Droits et Libertés en vous rendant sur la plateforme de podcast de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.